Chapitre 77. Les yeux ronds, Verna et ses compagnons regardaient la horde massée dans la plaine devant Ildakar.
« Nous sommes trop peu nombreux pour intervenir !»
gémit Ren. À demi caché derrière un arbre, il semblait ne plus savoir que faire.
« Cette armée est là depuis des siècles, mais qui aurait cru qu'elle se réveillerait ?»« Notre avalanche a fait des milliers de morts !» dit Zimmer. « À voir les réserves du général Outros, je doute que ce soit un problème pour lui. »
Verna balaya du regard le camp et ses environs.
« La ville résiste héroïquement, ça paraît évident. Et elle a porté des coups efficaces, dirait-on.
« Nous devons gagner Ildakar !»
dit Trevor très pâle.
« Et savoir ce qui s'est passé. »
Zimmer hocha pensivement la tête.
« Je comprends et partage ta position, mon ami. » Mais pour franchir les lignes ennemies, il faudrait pouvoir voler. Sorcier, ton don est assez puissant pour ça ?
Ren passa une main sur son menton barbu.
Non.
Dissipant la brume, le soleil fit enfin son apparition. Sous le crachin persistant, Verna vit six groupes sortir de la ville par des issues différentes.
Un baroud d'honneur ? Regardez, il lance une attaque.
Avec si peu de combattants ?
S'étonna Ren.
C'est tout ce qu'il reste des défenses d'Ildakar.
Autant essayer d'abattre un Yaxen avec des fléchettes.
Une fois hors de la ville, les six groupes partirent dans des directions différentes. En face, la réaction ne se fit pas attendre. En tête de chaque groupe, un détenteur du don déchaîna un enfer de feu et d'éclairs sur les soldats qui tentaient de barrer le chemin aux attaquants.
« Ce n'est pas une sortie classique, » dit Zimmer les bras croisés. Cinq groupes sur six visent le périmètre du camp. Pour s'enfuir ? Mais ça n'a aucun sens.
Au contraire, souffla Verna. Chaque unité a un objectif spécifique. Ces gens ne galopent pas au hasard.
Grâce à l'effet de surprise, les six unités progressaient rapidement, d'autant plus qu'elles évitaient tout affrontement frontal avec les guerriers d'Outros. Deux groupes fonçaient vers les collines au sud et deux autres faisaient de même au nord. La cinquième force décrivait une boucle pour atteindre la lisière du camp, du côté où Verna et ses amis se tenaient. Pour s'ouvrir le chemin, le chef d'équipe, sans doute un sorcier, avait invoqué un bélier d'air. La dernière unité fonçait droit au cœur du camp.
« À quoi rimaient ces manœuvres ?»
se demanda Verna.
« Ne pouvons-nous pas les aider ?»
lança Ambre, campée comme souvent à côté de ses nouveaux amis de surplomb du monde.
« Ils ne savent même pas que nous sommes ici !»
« Pour l'avalanche, » dit Oliver, « nous avons uni nos forces. Vous avez vu le résultat ?»
Il jeta un coup d'œil derrière lui, là où se tenaient les érudits, les soldats de Zimmer, les gardes de Trevor et les sœurs de la lumière de Verna.
« Ensemble, nous pouvons agir !»«
Oui, »
concéda Rhoda en approchant.
« Mais nous ne savons rien de leur plan. Dans ces conditions, comment les aider ?»«
L'essentiel, c'est de soutenir Ildakar, » dit Peretta.
« On sait quel camp choisir. »
« La ville est en danger, »
murmura Ren, blanc comme un linge.
« Il faut la secourir si nous pouvons. »
Deux des quatre groupes qui fonçaient vers les collines venaient apparemment d'atteindre leur position. Quand ces unités se furent arrêtées, les guerriers formèrent un cercle autour de leur chef pour le protéger. Les deux autres continuèrent à galoper, s'éloignant d'Ildakar. L'unité qui fondait sur la position de Verna fut soudain confrontée à une muraille humaine qui la força à ralentir puis à engager le combat.
« Là !» s'écria Ren. « Nous pouvons leur dégager le chemin en prenant l'ennemi à revers. Personne ne sait que nous sommes ici. »«
Oui, c'est évident, »
approuva Verna. Elle fit signe à ses sœurs d'approcher.
« Que les érudits viennent aussi. Nous allons frapper tous ensemble. »
Le petit groupe fut bientôt prêt à agir. Et tant pis si les chances de succès étaient infimes.
« S'il faut attaquer, » dit Zimmer, « pourquoi temporiser ? On y va !»
Avec tout le mystère requis pour un glorieux sorcier d'Ildakar, Ren décrivit des arabesques dans l'air. Aussitôt, les lourds nuages crevèrent et une averse s'abattit sur le champ de bataille. Avant de talonner sa monture, Verna se tourna vers les érudits de surplomb du monde.
« Souvenez-vous de nos leçons ?» « Nous vous avons appris pas mal de sortilèges, et si vous faites montre de créativité, personne ne se plaindra. »«
Pour Ildakar !»
cria Ren avant de lancer son cheval au galop. Droit devant, l'unité d'Ildakar était bloquée par des soldats à demi-pétrifiés qui se battaient comme des lions.
Pas en reste, les attaquants d'Ildakar semblaient protégés par de curieux manteaux de soie. À grand renfort d'éclairs, leur sorcier parvint à abattre une rangée de soldats de pierre. Un moyen de desserrer l'étau, mais qui risquait de ne pas suffire. Comblant la brèche, les guerriers d'Outros repassèrent à l'offensive. Déterminés, les attaquants resserrèrent le cercle autour du sorcier qui commença à vider sur le sol une outre emplie d'un liquide rouge. Une forme de sortilège? Les soldats de pierre redoublèrent leurs efforts afin d'atteindre et de neutraliser le détenteur du don.
« Plus vite !» cria Verna.
Sous l'orage, Rhaen surprit les guerriers d'Outros en les bombardant d'éclairs. Quand il en eut carbonisé une bonne vingtaine, leurs compagnons comprirent ce qui se passait et certains se retournèrent pour faire face à l'assaut inattendu. La crinière de sa monture serrée dans une main, Verna tendit l'autre bras et fit mine de marteler l'air devant elle. Les bourrasques qu'elle généra percutèrent les rangs ennemis, renversant les combattants adverses comme des quilles. Ambre et les six sœurs recoururent à la même magie. Toujours occupés à tracer quelque chose sur le sol, le sorcier des attaquants ne prenait pas le temps de frapper ses adversaires. Ses cheveux blonds grisonnants noués en queue de cheval, cet homme travaillait avec une concentration admirable compte tenu des circonstances. « Oui, » conclut Verna, « il dessinait bien une forme de sortilège. »«
On dirait Auron, »
lança Rhaen sans ralentir.
« Un sorcier de la guilde des écorcheurs. Pour se protéger de la pluie, il a invoqué un dôme d'air. »
Les sept sœurs et la novice générèrent d'autres bourrasques. D'un éclair, Verna carbonisa un soldat en cuirasse et les hommes de Zimmer, leur chef en tête, commencèrent à frapper de taille et d'estoc. Bouillant de rage, les gardes de Trevor se jetèrent eux aussi dans la mêlée.
« Auron, nous sommes là pour t'aider !» cria Rhaen.
Malgré le bruit et la fureur, Verna réussit à voir que les quatre groupes avaient tous atteint leur position. Ainsi placés, ils délimitaient une zone qui englobait un bon quart de l'armée adverse. Et, dans chaque cas, un sorcier s'affairait à dessiner quelque chose sur le sol. Autour d'Auron, les défenseurs allaient succomber quand les renforts venus de surplomb du monde fondirent sur les hommes d'Outros et les éparpillèrent. Profitant de ce répit, le sorcier d'Ildakar travailla de plus belle, tandis que Rhaen et Verna galopaient ventre à terre pour le rejoindre. Quand elle vit la rune qu'il dessinait, la dame abbesse en resta bouche bée. De sa vie, elle n'avait jamais posé les yeux sur une chose pareille.
« Magie de transfert !» dit Rhaen laconique.
Son œuvre achevée, Auron leva les yeux et, sans cérémonie ni manifestation de reconnaissance, lâcha froidement.
« Eh bien, Rhaen, il était temps que tu arrives. Un sorcier de plus ne sera pas trop. »«
J'en ai d'autres avec moi et ils nous aideront !»
Les traits tirés après son effort, Auron étudia la rune sur le sol. Puis il passa les mains dessus comme s'il se les réchauffait sur des flammes. À un moment, il appuya plus fort comme pour vaincre une invisible résistance et la peinture brilla intensément.
« Voilà, la rune est finie et protégée. Outros ne pourra pas la détruire pendant qu'elle s'allance le sortilège. Si son plan fonctionne, nous n'aurons peut-être plus besoin de nous battre. »
Tout autour de la plaine, les quatre groupes en avaient eux aussi terminé.
Cinq équipes étaient chargées des runes satellites, expliqua Auron à l'intention de Rhaen et Verna. La sixième, qui compte Elsa et Nathan, doit implanter une rune d'ancrage au cœur du camp, puis l'activer. Si ça se passe bien, nous éliminerons une bonne partie de l'armée adverse.
Raison de plus pour que nous vous aidions, fit Rhaen.
Levant une main, Auron expédia vers le ciel une boule de feu qui décrivit une parabole majestueuse.
« Voilà ! Ils savent que ma rune est en place !»
Revenus de leur surprise, les soldats de pierre remontaient déjà à l'assaut. D'un geste vif, Auron rejeta derrière son épaule sa longue natte blonde.
« Tant qu'à faire, j'aimerais vivre assez longtemps pour voir la suite des événements. »
Quand Lila et Bannon furent de retour sur la falaise, la première galère venait juste de percuter les quais.
« Je sens leur puanteur d'ici !»
lâcha Bannon, les dents serrées.
« L'odeur du sang, de la souffrance et de la laideur !»
Lila eut un grand sourire.
« Les tués m'auraient plu de toute façon, mais si tu me dis qu'ils sont haïssables, ça ajoutera à mon plaisir. »
Après avoir arrimé le navire, les premiers pillards bondirent sur le quai. En aval du fleuve, le reste de l'armada ne tarderait pas à débouler. Accourant de partout, des défenseurs d'Ildakar, une bonne centaine, se postèrent à l'entrée des tunnels, côté falaise. Se penchant un peu, Bannon étudia la rune qu'il avait contribué à peindre, puis il regarda vers le haut et ne vit pas ce qu'il s'attendait à découvrir.
« Où sont Damon et Quentin ? Ils devraient être à côté de la tour, préparés à combattre. Nous avons besoin de leur magie !»
Comme une colonie de fourmis, les Norokai commençaient à escalader la falaise. Près de Bannon, Lila rengaina son épée et son couteau.
« Ces armes-là seront pour plus tard. »
Dans les marchandises entreposées le long du tunnel, la Moracite s'empara d'un tonneau de farine et la jeta dans le vide. Tombant comme une pierre, le projectile improvisé s'écrasa sur deux Norokai. Dans un nuage de poudre blanche et de sang, ils basculèrent en arrière, chutèrent et déséquilibrèrent plusieurs de leurs camarades. Conquis par la tactique de sa compagne, Bannon alla chercher une caisse et joua lui aussi aux quilles verticales. Dans les autres tunnels, les défenseurs imitèrent la manœuvre avec tout ce qui leur tombait sous la main. Des barriques, des sacs, des pierres et même une caisse de poisson plus très frais. Insensibles au sort de leurs frères d'armes malchanceux, les pillards continuaient à s'accrocher au granit comme des sangsues. Alors que la situation semblait désespérée, un flot de pouvoir venu du sommet balaya la falaise et fit un massacre parmi les assaillants. Se tordant le cou pour mieux voir le sommet, Bannon distingua trois silhouettes en tunique de soie qui lançaient sortilège sur sortilège.
« Enfin de l'aide !»
s'écria Lila. En bas, les quais venaient de se désolidariser de la roche. Les galères se mirent aussitôt à dériver et à se percuter. Surpris, les Norokai encore à bord se bousculèrent et certains sautèrent même à l'eau. Mais l'armada continuait sa route, les nouveaux navires percutant les précédents pour s'arrêter. Très vite, ces galères immobilisées bord contre bord formèrent un pont qui permit aux guerriers d'atteindre le pied de la falaise. Au sommet, les trois sorciers déversèrent sur les assaillants des torrents d'eau. Le contenu des égouts, bien entendu, tout à fait approprié à ces salauds d'esclavagistes, ne put s'empêcher de penser Bannon. Là encore, l'effet fut dévastateur, mais insuffisant.
« Douce mère la mère !»
haleta le jeune escrimeur en soulevant un gros tonneau.
« Ce truc est-il plein de cailloux ?»
Cela dit, le poids serait un avantage, considérant ce qu'il voulait faire. Muscles bandés, il balança sa charge sur une plateforme où des Norokai essayaient de prendre pied.
« Continuons comme ça !»
s'écria Lila qui semblait s'amuser comme une petite folle.
« Tôt ou tard, il faudra quand même les affronter au corps à corps. Là, ça deviendra vraiment excitant. »
Quand la porte de sa cellule s'ouvrit en grinçant, Tora se leva d'un bond. Les yeux écarquillés de terreur, Damon et Quentin avancèrent vers leur ancienne souveraine.
« L'heure est venue, Sovrena. Si nous n'agissons pas très vite, Ildakar est fichu. »
« Outros menace d'entrer en ville ?»«
Non, mais les autres membres du Douma sont dehors, pour implanter dans le camp des runes de transfert. »«
Malheureusement, » enchaîna Damon, « une flotte de galères nous attaque côté falaise. » 50 navires chargés de milliers de pillards. Pris en tenaille, nous n'avons aucune chance de survivre. »
Tora fronça les sourcils.
« Donc, vous avez décidé de générer le linceul de l'éternité. Jusqu'à la fin des temps, cette fois. »
Quentin acquiesça frénétiquement.
« Oui, c'est le moment ou jamais. Tous les membres du Douma qui pourraient s'y opposer sont dans la plaine et Nietzsche n'est pas revenu. Si nous ne traînons pas, il reste possible de sauver Ildakar. » « Sovrena !»
implora Quentin.
« Nous avons besoin de toi. En magie du sang, tu es la plus compétente. N'as-tu pas déjà érigé le linceul une fois ?»«
J'ai promis de vous aider, »
fit Tora en avançant vers la porte. Quentin s'écarta pour la laisser sortir.
« Des gardes écument déjà la ville avec les listes de volontaires et de réquisitionnés. »
ajouta Damon. Galvanisé, Tora suivit les deux hommes dans une enfilade de couloirs éclairés par des torches.
Pour sauver Ildakar, un énorme sacrifice s'impose. N'oubliez jamais ce que nous devons à ces héroïques volontaires.
Nous en avons recensé 800, Sovrena.
C'est bien, mais il me faudra au minimum 1000 personnes, dont des nobles si possible. Leur sang est plus efficace. Si on en a beaucoup, ça épargnera des vies.
« C'est vrai, »
concéda Quentin. «
Mais les gens normaux sont plus faciles à appréhender et à tuer. Les gardes sauront se montrer impitoyables. Depuis l'exécution de Stuart, ils sont assoiffés de sang. »
Après avoir franchi une arche, le trio déboucha enfin à l'air libre sous un ciel très gris.
« La pyramide est détruite ?»
rappela Thora.
« Où lancerons-nous le sortilège ?»«
On se fiche de la pyramide !»
s'écria Damon.
« Ce qu'il nous faut, c'est la machine et la forme de sortilège. »« Sans oublier le fluide vital !»
dit Quentin.
« Nous avons choisi un endroit assez grand pour contenir tant de monde. »
La nouvelle de l'invasion s'étant répandue, la panique régnait en ville. Partout, des citadins couraient se mettre à l'abri ou au contraire fonçaient vers la falaise une arme à la main. Les gardes se ruaient plutôt vers les portes, résolus à les défendre si les soldats de pierre attaquaient en représailles de la sortie en cours. Quand Thora comprit vers où se dirigeaient les deux sorciers, elle sourit intérieurement. L'arène serait l'endroit idéal pour ce qu'ils avaient à faire. À l'intérieur, le vacarme des conversations se révéla assourdissant. Sans se soucier de leurs protestations, les gardes poussaient des colonnes de malgré eux vers leur destin. Même parmi les volontaires que personne ne rudoyait, des femmes et des hommes pleuraient ou avançaient comme des automates. Main dans la main, deux vieux époux avançaient en souriant. L'exception bien plus que la règle. L'équipement recréé par Damon était installé dans la zone de combat. Tout y était. Le creuset d'argent, le grand miroir, les divers prismes. Dans le sable, Quentin s'était chargé de tracer la forme de sortilège géante.
« Il ne manque plus que le sang !» dit Damon.
Les yeux rivés sur le flot de suppliciés qui continuait d'affluer, Thora hocha sombrement la tête.
« On commence sur le champ !»
ordonna-t-elle.